Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Est-ce qu'on peut espérer que si c'est couvert universellement par la RAMQ, ben là, soudainement, les médecins vont se mettre à prescrire du bioidentique?
J'ai demandé qu'il y ait une négociation avec des fabricants. Il y a des fabricants qui ont une conscience sociale pour faire une différence pour les femmes. Vous m'avez vraiment sensibilisé, je vous le dis, là, vous avez...
Mais j'espère, ça concerne 2,4 millions de femmes.
Il y a 35 jours, on était assis comme ça, face à face, et vous m'avez promis un cadeau. Qu'est-ce que vous avez à m'annoncer aujourd'hui?
L'hormonothérapie qui sera maintenant plus facile d'accès pour traiter les symptômes de ménopause, a annoncé le gouvernement Legault aujourd'hui, le jour même où l'épilogue du documentaire L'Automéno est disponible en ligne sur Véro.tv. Un hasard, on va poser la question à la principale intéressée. Véro est avec nous. Salut Véro.
Allô Geneviève. Écoute, j'entends l'extrait de la bande-annonce puis je me remets toujours pas de ça. J'ai le cœur qui débat. J'en reviens pas de ce que je vis depuis 2-3 semaines.
T'as encore les frissons puis tout?
Comment tu dis?
Est-ce que t'as encore les frissons puis tout?
Ah oui, absolument, absolument, parce que ben tu veux savoir comment ça s'est passé pour cette nouvelle-là. Donc voici pour l'épilogue de L'Automéno, donc l'épisode final qui sort aujourd'hui. Oui. Tu fais un retour sur l'impact de la série dans la dernière année, autant chez le public que médiatiquement que chez les professionnels de la santé. Tu sais, qu'est-ce que ça a changé? Où en est-on avec la pétition, etc.? Mm. Ben à la fin, le point culminant, c'était ma rencontre avec le ministre Dubé. Déjà là, moi j'espérais avoir une rencontre avec le ministre de la Santé. Mais tu sais, bon, pandémie, tout, j'étais pas sûre que j'allais être prioritaire, mettons, sur la liste. Finalement, j'obtiens une entrevue en avril. On fait l'entrevue, ça se passe bien, M. Dubé démontre une belle ouverture. Et là, il me dit, oh, je me sens comme si j'avais un cadeau, j'avais acheté un cadeau à ma blonde puis je pouvais pas y donner. Mm. Fait que l'entrevue se termine et là, les filles qui travaillent avec lui, Gabrielle et Marjorie, nous disent, vous avez jusqu'à quand pour ajouter quelque chose dans votre épisode? Parce que on travaille vraiment sur quelque chose, mais on peut pas vous en parler, on peut pas vous en dire plus. Mais on pense qu'on va avoir des nouvelles à annoncer à peu près dans le temps de la sortie en mai. Fait que là, on dit, mon Dieu, je vais repousser s'il faut. Alors, j'ai retardé la sortie de l'épilogue d'une semaine en attendant des nouvelles puis en espérant pas m'être trompée. C'est un pari que j'ai pris, là.
Fait que tu le savais pas, là. C'est ça que tu vas me dire. Quand tu t'es assise à Christian Dubé, tu me jures que c'était pas arrangé. Parce que moi, j'ai écouté ça hier, puis j'étais comme, ben le voyons, elle savait.
Je te le jure sur tout ce que tu veux, OK? Parce qu'on avait fait notre enquête, nous autres, de notre bord, puis la veille de l'entrevue, Rosemonde Gingras, qui fait les relations de presse pour L'Automéno, puis notre cause et tout ça, tu sais, qui nous aide vraiment beaucoup. Rosemonde, elle s'est informée un petit peu dans les coulisses, et là, elle m'avait dit... Je pense qu'il va. Mes sources me disent qu'il va t'annoncer qu'il a réussi à négocier une baisse de prix, puis c'est un premier pas.
T'sais? OK.
Mais, alors, moi, je m'attendais à ça. Fait que ma réponse était déjà prête. Ma réponse était ben, c'est gentil d'avoir fait ce pas-là. Tu sais, c'est pas tout ce qu'on voulait, mais je savais que ce serait long, donc on s'en va dans la bonne direction, puis on compte sur vous. Moi, c'était ça, là. Il m'annonce que c'est réglé, fini, passé à RAMQ. Je te dis, j'ai pas vu venir ça du tout. J'ai été sous le choc de longues minutes, puis même toute la fin de semaine qui a suivi, puis encore là quand j'en parle.
Ben, puis je veux qu'on revienne un peu, qu'on remonte un peu le temps. Il y a un an, là, quand L'Automéno s'est sorti, quand je l'ai écouté, Véro, tu le sais, là, je t'ai écrit tout de suite. Je t'ai dit, oh my God, j'ai tout ça. Là, je parle des symptômes là que tu décrivais, qu'Hélène Bourgeois-Leclerc décrivait, que les spécialistes décrivaient. J'ai compris, par contre, en regardant tous les commentaires, les jours qui ont suivi, là, puis en regardant l'épilogue hier soir, que j'étais vraiment pas la seule. Puis, tu sais, quand j'ai entendu quelqu'un dire que c'était comme un MeToo des hormones dans l'épilogue, c'est vraiment ça. Il y a un avant puis un après.
Ouais, il y a vraiment eu un éveil, en fait. C'est que soudainement, un sujet dont on ne parlait pas, pour plein de raisons, parce qu'on le sait pas, parce que on pense que c'est juste parce qu'on est plus vieille, puis on est stressé, puis on travaille. Tu sais, quand on a toutes sortes de symptômes, on met la faute sur plein d'affaires. Parce qu'on le sait pas que ça peut être une préménopause entamée. Parce que la ménopause, oui, c'est le moment où ça fait un an qu'on n'a pas eu de menstruation, mais la périménopause, donc tout ce qu'il y a avant puis après, c'est très vaste, hein. Puis dans L'Automéno, ce qu'on comprenait, donc toi et les milliers de femmes qui m'ont écrit par la suite, ainsi que moi-même, c'est l'impact de ces hormones-là puis de ce déséquilibre hormonal-là sur l'ensemble du corps humain. On pense toujours que c'est les chaleurs puis les bonnes femmes pas patientes, mais c'est pas ça. C'est plein de choses, des démangeaisons, des problèmes digestifs, des douleurs articulaires, état dépressif, écoute, il y en a, là, ça finit plus. Moi, c'était mes cheveux, perte de cheveux, la peau épouvantable, la sécheresse. Et la liste est très longue de symptômes. Donc, une fois qu'on comprend ça, ben là, on se sent validé dans notre état, puis on se dit, bon, ben, tu sais, je suis pas folle, je ne suis pas toute seule, maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'aider, tu sais? C'est un peu ça. Et la nouvelle d'aujourd'hui, là, qu'a annoncé le gouvernement, de ministre de la Santé, ben, vient dire, oui, on a des options, puis on va les pousser encore.
Mais puis on va vous aider, voilà. Parce qu'on a toujours l'impression que la santé des femmes, puis, tu sais, c'est comme si on était né un peu pour souffrir, puis pour endurer nos hormones. Puis dans l'idée d'être gênée d'en parler, je pense qu'il y a notre peur de vieillir aussi, parce qu'on le sait qu'une femme sur le marché vieillissante est en déclin. Fait que de dire, moi-même, j'étais stressée de faire des stories en disant, hey, je pense que je suis en périménopause, la gang. Je me disais, oh mon Dieu, les gens qui m'engagent, ils vont penser quoi? On est là pareil, là. Il faut le dire que c'est ça la réalité.
C'est dans la série qui est sortie l'an dernier, dans les trois premiers épisodes de l'Automéno, il y a notamment parmi les témoignages, il y a Marie-Soleil Michon, qui est mon amie depuis très longtemps, qui elle a eu plein de problèmes hormonaux et tout ça. Et elle le dit dans la série qu'elle a hésité avant de venir témoigner parce que dans notre métier particulièrement, mais je pense que c'est valide pour tous les domaines, là.
Oui, oui.
Mais c'est comme tu dis, une femme en société puis sur le marché du travail. Ça paraît pas bien de dire que t'es en préménopause ou que t'es en ménopause ou que t'as chaud.
Il faut que tu sois jeune puis pépé puis de bonne humeur tout le temps.
Oui, elle est vieillissante. Alors, quand on l'a tranquillement, c'est mine de rien. C'est un peu ça. Puis finalement, elle a décidé, Marie-Soleil, de témoigner quand même parce qu'elle dit, ben, c'est en parlant justement qu'on va se débarrasser de ces stéréotypes-là puis de ces aux idées.
Puis tu sais, en même temps, pour les gens qui te suivent depuis longtemps, ceux qui n'ont pas vu, par exemple, ton show d'humour, c'était surprenant de t'entendre parler comme ça. Moi, pour vrai, Véro, là, de t'entendre dire quasiment j'ai du sable dans le vagin, je suis pas irriguée. Là. Écoute, je pense que j'ai reculé trois fois. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, elle vient de dire ça, maman, je te le jure. C'est ça. Véro, là. Véro! Notre Véro! Non, mais c'est vrai!
Véro,
bravo!
Qui n'a pas de noun, hein?
Ben oui, c'est ça. T'as pas de vie. Toi, t'es comme Véro.
Ouais. Un peu comme une Barbie, comme dit Marie-Mé. Ouais,
mais c'est vrai? Ça. Comment ça que t'as décidé d'aller aussi loin que ça?
Ben, parce que je souffrais tellement, tu sais, que c'était pour moi, là, une fois que j'ai pris la décision et que j'ai réussi à convaincre mon entourage de faire cette émission-là, mon mari notamment, mais aussi mes collègues puis mes patrons à Tout TV, tu sais, à Véro TV, parce que mes patronnes particulièrement, ce sont surtout des femmes, tu sais, puis tout le monde me disait, ouais, mais ça va intéresser qui, là, puis c'est pas un excitant, puis voir que tu vas avoir du stock pour faire trois épisodes. Écoute, j'aurais pu en faire huit. J'avais tellement de choses à dire parce qu'à mesure que j'enquêtais, entre guillemets, même si je ne suis pas journaliste, là, c'est un peu cette démarche-là que j'ai faite avec l'équipe de l'Automéno, à mesure que j'enquêtais et que j'apprenais des affaires, je me disais, voyons donc, il faut que tout le monde sache ça. Fait que une fois que j'ai eu le bras dans la machine, je ne pouvais plus reculer, puis je ne voulais plus reculer non plus, parce que c'était important. Puis tu vois, on est presque un an plus tard, avec la super nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, je me dis, ben regarde, ça aura valu ça, mais c'est important pour moi, puis je le répète beaucoup en entrevue aujourd'hui, puis sur les réseaux sociaux, c'est important pour moi que les gens comprennent que c'est pas mon combat, c'est pas moi qui ai gagné quelque chose.
Ben attends, là moi, c'est là où je t'arrête un peu, je m'excuse, là. Non, c'est pas ton combat, puis c'est pas entièrement tourné vers toi, mais je pense pas que si c'était monsieur, madame, tout le monde qui avait fait ça, ça aurait eu le même impact. T'sais, je parlais au début de l'émission, je disais, ça me faisait penser un peu quand Julie Snyder s'était mise à militer pour la procréation assistée. C'est sûr que d'avoir quelqu'un que ton capital de sympathie, ta notoriété, ça l'aide, comme on dit en bon québécois, à faire avancer des dossiers, là. Hein?
Ben, c'est sûr, puis il y en a qui trouvent ça désolant, tu sais. Il y en a qui, j'en reçois plein de messages depuis ce matin, puis il y a certaines personnes qui me disent, ben, c'est plate que ça prenne une vedette pour faire avancer les affaires.
Ouais, ben, il faut que ça avance, peu importe, là. Peu importe c'est qui.
Ça a avancé, tu sais.
Oui, ben, c'est vrai. 260 000 signatures sur une pétition.
Oui, c'est ça. Tu sais, ben, en fait, ma tribune, mon nom, puis c'est l'exemple que tu donnes de Julie Snyder avec la procréation, c'est super bon aussi. Ben, tant mieux si ça sert à autre chose. Moi, je veux bien faire des entrevues avec des vedettes, puis je veux bien faire des émissions de variété, puis c'est ça que j'aime. C'est ça mon métier. Je changerai pas ça. Je deviendrai pas journaliste ni documentariste, pas en tout. Mais si ça peut servir, tu sais, j'avais amorcé un peu ce virage-là avec la Fondation Véro et Louis, utiliser notre lumière pour virer le projecteur sur autre chose, sur une cause qui a besoin de lumière, justement. Puis là, ben l'Automéno, pour moi, ça s'inscrit dans le même mouvement. C'est à un autre niveau, c'est autre chose. C'est pas dans la philanthropie, mais ça touche quand même encore plus de gens, tu sais, que l'autisme, parce que ça touche toutes les femmes, on va toutes passer par là un jour ou l'autre. Mmh. À divers degrés, hein, y a des femmes qui n'ont rien.
Chanceuse.
Qui s'en sortent très bien. Oui. Et je suis très heureuse pour elles. Grand bien leur face, c'est formidable. Mais tu sais, il y en a qui m'ont écrit ça aussi. Mais pourquoi t'as pas parlé des femmes qui ont rien? Ben, parce que c'est quoi le but? Tu sais, si ça va bien.
Tu le dis, dans certains épisodes, que bon, les symptômes sont quand même différents d'une femme à l'autre, là. Puis tu sais, je veux qu'on revienne un peu aussi sur le fait que, bon, docteur Demers, c'est une médecin qui polarise, là. Tu sais, on l'aime ou on l'aime pas. Puis ouais. Dans l'épisode d'hier, dans cette espèce d'épilogue, si on veut, là, vous ouais. revenez un peu sur la controverse parce qu'évidemment, ça a tellement fait jaser ce documentaire-là qu'il y a des journalistes puis des gens qui interviennent dans l'actualité qui sont un peu allés voir, bon, les hormones bioidentiques. C'est-tu une gamique? C'est-tu un complot? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Moi, j'ai trouvé ça plate, là, parce que c'est comme si on faisait un pas en arrière sur ce qui était dit.
C'est normal. Quand tu vois un mouvement de masse qui s'en va tout du même bord, je pense que c'est le travail des journalistes, des médias, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Je pense que c'est tout à fait normal. Cela dit, la crédibilité de Dr. Sylvie Demers est inattaquable.
C'est vrai.
C'est une femme qui sait de quoi elle parle, elle maîtrise vraiment très bien son dossier, et ce, depuis longtemps. Puis, je trouve ça le fun que, là, ça ait donné envie à des médecins de suivre, tu sais, puis d'aller suivre sa formation, de s'intéresser à ça, puis de pouvoir mieux soigner les femmes. Je dois saluer l'ouverture des professionnels de la santé, parce que tu sais, dans l'épilogue, on parle des médecins, mais on parle aussi des pharmaciens, on parle des gynécologues, on parle, tu sais, il y a des psychiatres qui sont allés suivre la formation de Dr. Demers, tu sais, des gens qui comprennent, ah, ok, oui, les hormones, ça peut avoir un impact sur tout ça, donc ça touche aussi ma spécialité, tu sais, puis évidemment des médecins de famille, tu sais, des généralistes qui peuvent prescrire les hormones bioidentiques aussi, fait que ces gens-là qui se sont ouverts l'esprit puis qui se sont intéressés, plutôt que de se refermer puis de se camper dans leur position, ben je trouve ça vraiment admirable, puis je les salue. Il y en a qui restent fermés, hein, il y en a qui continuent de dire que c'est du marketing, que ça n'a pas rapport, que les hormones, ça n'a pas d'impact.
Moi, je prends de la progestérone depuis janvier, puis ça a changé ma vie. Donc, je pense qu'on est capable de se dire que c'est pas juste placebo. Là, terminons là-dessus. Le fait que ça va être remboursé par la RAMQ, c'est une chose, mais au niveau de la formation des médecins, là, ceux qui veulent avoir accès ou ceux qui avaient plus de réticence, est-ce que tu penses que ça va aider à ce niveau-là que la RAMQ aille de l'avant?
Absolument. Christian Dubé m'a dit dans l'entrevue, là, puis on peut le voir dans l'épilogue de l'automéno qui est sorti ce matin, que d'abord, il y aura un guide d'usage optimal qui va être rédigé par l'INEF. C'est Dr. Deguise qui est en charge de ça puis qui va le faire. Donc ça va aider justement les médecins à savoir comment prescrire puis comment ça marche et tout ça. Puis aussi, moi, j'avais demandé au nom de Dr. Demers la formation d'un comité expressément pour ça, avec, oui, les experts qui les conseillent déjà, tu sais, mais aussi des experts, des spécialistes qui sont sur le terrain, qui voient les bienfaits de leur monothérapie depuis plusieurs années dans leur cabinet, pour que, tu sais, si tout le monde se parle ensemble, on va arriver justement à peut-être convaincre les médecins qui sont encore réfractaires, les spécialistes qui sont moins à l'aise avec ça, puis faire la démonstration que c'est sécuritaire et que ça peut aider. Parce que plus, là, tu sais, oui, c'est accessible par la RAMQ, mais c'est un excellent point, Geneviève. Il y a encore, tu sais, si
il y a un petit bout à faire encore.
Veut pas, ben, si ton médecin veut pas t'en donner et il croit pas à ça, ben, t'es pas plus avancé, il faut que tu changes de médecin, puis Dieu sait que c'est pas simple en ce moment, tu sais. Déjà, si t'es un médecin, t'es chanceux. Donc c'est ça, on marche vraiment dans la bonne direction, mais je sens que le gouvernement était vraiment bien sensibilisé à la chose. T'sais, puis la preuve, c'est qu'ils ont bougé très rapidement. Puis ce qui est venu sceller tout ça, c'est le reportage d'enquête. T'sais, c'est Madeleine Roy.
Ouais.
Parce que moi, j'avais encore l'air aux yeux de certains, même s'il y avait un gros mouvement de masse, comme je disais, là, favorable. Il y a certaines personnes qui disaient, ben voyons, là, l'animatrice avec des paillettes puis des talons hauts, qui s'en vient me dire quoi prescrire, là, puis quoi faire avec mes patientes. Je comprends très bien là, que ça puisse déranger. Mais là, arrive le reportage d'enquête qui a été diffusé à la fin mars, qui vient valider tout ce qu'on disait dans l'automéno, mais avec encore plus de recherches, avec encore plus de journalistes sur le dossier, des journalistes scientifiques aussi. C'est ce que Madeleine Roy m'a dit, là, qu'elle a un journaliste scientifique qui a épluché la question et qui arrive aux mêmes conclusions que nous autres. Là, je pense que ça, je n'ai pas demandé à Christian Dubé, mais je pense que c'est venu comme faire « OK ». Je pense que là, on peut bouger.
Ça scelle le deal, comme on dit. En plus, on est en année électorale. Il y a des cadeaux électoraux qui sont bons.
Ben,
ordinaire, mais celui-là, on va le prendre, hein? Disons ça comme ça.
Oh, On va le prendre, peu importe le timing,
exactement. Merci Véro d'avoir été avec nous. Pour vrai, ceux qui n'ont pas vu l'automéno, là, j'invite tout le monde à aller voir ça. Pas juste les madames, les messieurs aussi, parce que ça peut servir à expliquer bien des comportements, bien de la détresse aussi. Puis on regarde aussi cet épisode épilogue. Merci.
Merci à toi, Geneviève, pour ton soutien depuis le début.
Bye bye, mes hormones vont tellement mieux. Salut.
Salut.